This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Juin 1995. Dans les salles de rédaction du Washington Post et du New York Times, l'ambiance est électrique. Cette fois, ça y est. Una Bomber vient d'envoyer par la poste le manuscrit tant attendu. C'est un manifeste de 56 pages intitulé « La société industrielle et ses conséquences ». Une petite lettre dactylographiée adjointe au manuscrit, précise que de nouveaux attentats sanglants auront lieu si ce manuscrit n'est pas publié dans les meilleurs délais.
En vérité, Theodore Kaczynski a longtemps travaillé sur ce manuscrit. C'est l'œuvre de toute sa vie. Chaque phrase a été finement ciselée, chaque mot pesé avec soin. Dans son texte, Theodore pointe du doigt le risque que représente le progrès informatique, la science du génome, les techniques modernes de manipulation du comportement. 56 pages pour convaincre le monde de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard.
Les rédacteurs en chef du Times et du Post se réunissent avec le FBI sous l'égide du procureur général en charge de l'enquête. Un débat intense les agite. Certains pensent qu'il faut obéir à Una Bomber. Cela pourrait mettre fin aux attentats, si le criminel tient sa parole. De plus, en diffusant largement le manuscrit, un lecteur pourrait reconnaître son auteur et prévenir le FBI, qui sait. Il y a peut-être un coup à jouer ici. Mais d'autres autour de la table sont beaucoup plus sceptiques. Céder à Una Bomber serait la pire chose à faire. On ne négocie pas avec les terroristes. Ce serait une première dans l'histoire des États-Unis. Une faute grave qui pourrait donner des idées à d'autres criminels. C'est beaucoup trop dangereux. Et puis qui nous dit que ce fou furieux respectera sa parole une fois sa requête acceptée?
Theodore se régale en imaginant les débats parmi ses adversaires. Il ne s'inquiète pas. Il croit farouchement à son plan. Toutes ces années d'attentats n'ont servi qu'à préparer le moment précis. Mettre une telle pression sur les enquêteurs qu'ils seront forcés d'accepter l'inacceptable. Ces idiots du FBI n'ont pas un début de piste sur lui. Ils sont tellement désespérés et paniqués qu'ils vont céder. Théodore en est convaincu.
19 septembre 1995. Le manuscrit intégral de Una Bomber est publié dans le New York Times et dans le Washington Post. Le FBI a fini par craquer. Le pamphlet du criminel le plus recherché des États-Unis est imprimé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et diffusé dans tout le pays. Una Bomber peut s'en réjouir. Il a gagné son pari. Le plan des enquêteurs est fragile, mais c'est la seule carte qu'ils ont à jouer. espérer qu'un lecteur du pamphlet les contactera après avoir reconnu les idées, le style ou la façon de s'exprimer de Una Bomber. En attendant, il décortique chaque mot du texte. Il n'y a bien sûr aucun indice direct. Les enquêteurs savent que Una Bomber est trop malin pour commettre ce genre d'erreur. On charge Cathy Puckett, une psychologue des services de contre-espionnage du FBI, d'analyser les phrases pour en tirer un rapport. Sa conclusion, l'auteur du manifeste est narcissique et convaincu de sa supériorité intellectuelle. Cathy Puckett en tire une hypothèse. Il s'agit selon elle d'un individu socialement inadapté au monde moderne, probablement rejeté par ses semblables, et qui a projeté toute son aigreur et ses griefs sur la société technologique.
Théodore se sent transporté d'une exaltation troublante. Cette fois, c'est terminé. Il a gagné. Fin de partie. Ses idées vont se propager parmi les foules et provoquer une révolution générale. Les gens étaient aveugles, mais désormais, ils savent. Ils connaissent la vérité, sa vérité. D'ailleurs, la célébrité de Una Bomber enfle à toute allure. On ne parle que de lui à la télé ou dans les journaux. Un culte à ses idées s'apprête à naître. On le verra enfin comme un héros, un libérateur, un prophète.
Janvier 1996. Quelques mois après l'apparition du texte, Linda Patrick est assise dans son salon et feuillette un ancien numéro du Washington Post lorsqu'elle tombe, par hasard, sur le manifeste de Una Bomber. Elle pousse un soupir. Encore un article sur ce cinglé poseur de bombes ? Vaguement intéressée, elle parcourt le texte en diagonale, puis referme le journal et cesse d'y penser. Mais brusquement, un doute la traverse. Elle se redresse d'un bond, ouvre un nouveau journal et relit l'intégralité du manifeste, plus lentement cette fois. Aussitôt la lecture achevée, elle se précipite dans la cuisine et empoigne son mari David en lui montrant le texte. Elle lui pose alors une question, une simple question, qui va tout changer. « Tu ne trouves pas que ça ressemble au courrier que ton frère Théodore t'avait envoyé à l'époque ?»
25 ans plus tôt, en 1971, Théodore Kaczynski avait commis une erreur, la seule et unique de toute sa vie. Envoyer un courrier politique à son frère David, la dernière personne avec qui il entretenait encore un lien social. Théodore pensait pouvoir lui faire confiance.
David Kaczynski est troublé par les propos de sa femme. Au fond d'une malle, il retrouve l'ancien courrier de son frère et le compare au manifeste paru dans le Washington Post. Les ressemblances sont troublantes. Même théorie, même tournure de phrase, même colère généralisée contre le monde moderne. Dans un premier temps, David refuse d'y croire. Théodore n'est pas quelqu'un de violent. Il est certes différent, introverti, réservé, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est Linda qui achève de le convaincre. Celle-ci est persuadée que Théodore est Una Bomber. Cela ne fait aucun doute. Les phrases se ressemblent trop. Et dans ce cas, il faut prévenir immédiatement la police. Février 96. Déchirée entre la culpabilité à l'idée de trahir son frère et la nécessité de sauver des vies innocentes, David Kaczynski contacte le FBI et leur transmet toutes les informations. Au début, les enquêteurs sont sceptiques. Des témoignages pareils, ils en ont vu passer des milliers. Mais lorsqu'ils analysent l'ancien courrier reçu par David, ils n'en croient pas leurs yeux. La similarité avec le manuscrit de Una Bomber est frappante. Un groupe d'experts établit un premier rapport. Au total, plus de 160 ressemblances directes entre les deux textes sont relevées. Le FBI est abasourdi. Après des années d'enquête, tiendrait-on enfin notre homme ?
Pendant ce temps, dans les profondeurs de sa forêt, Théodore Kaczynski savoure sa gloire et songe à l'avenir. Il baigne dans un océan d'optimisme. Et une question le taraude. doit-il vraiment cesser les attentats ? Certes, il est parvenu à propager ses idées anti-industrielles, mais il n'est pas trop tard pour accroître encore un peu la terreur et provoquer l'instabilité qui libérera le monde. Alors, en y réfléchissant bien, pourquoi ne pas fabriquer quelques bombes de plus ? Juste au cas où. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
L'escouade spéciale se met en mouvement. Des équipes de surveillance sont déployées dans la forêt qui abrite la cabane de Theodore Kaczynski. Un poste de commandement du FBI est installé à Lincoln, la ville à proximité. Les effectifs sont nombreux. Rien ne doit être laissé au hasard. Le 3 avril 1996, un mandat d'arrêt est officiellement obtenu pour capturer Theodore Kaczynski. Le FBI passe à l'action. Plusieurs équipes lourdement armées encerclent la cabane, en embuscade, à bonne distance. On redoute qu'en cas d'interpellation, le suspect n'utilise une bombe pour se défendre. Raison pour laquelle un stratagème est mis au point. Deux agents déguisés en civil accompagneront un garde forestier, Jerry Burns, jusqu'à la cabane de Kaczynski. Objectif ? Pousser le suspect à baisser sa garde, le faire sortir de sa tanière et l'intercepter proprement. Le jour J, tout le monde se met en place. On donne le feu vert. L'opération peut commencer.
Theodore Kaczynski ? C'est Jerry Burns, garde forestier. Vous voulez bien nous ouvrir la porte ?
Theodore émerge de sa sieste d'une humeur massacrante. Il n'aime pas qu'on vienne le déranger. Et encore moins en plein après-midi à l'heure du repos. En entendant les trois coups frappés contre sa cabane, il se lève en grognant. Qu'est-ce qu'on lui veut encore ? Il ouvre la porte et découvre trois hommes sur le seuil. L'un d'eux lui explique qu'il s'agit d'un contrôle de routine. Ils sont là pour mesurer les limites du terrain qui borde la cabane. Théodore pousse un soupir. Il se détourne pour prendre une veste. Mais à peine a-t-il fait un pas que les trois hommes se ruent sur lui et le plaquent au sol.
FBI, plus un geste !
Deux des hommes parviennent à immobiliser Kaczynski, tandis que le troisième lui passe les menottes. Au total, l'interpellation aura duré moins de 10 secondes. On relève Kaczynski, l'air sonné et hagard, puis on l'emporte dans une voiture jusqu'au poste de commandement du FBI, à Lincoln.
Durant le trajet, Théodore ne prononce pas un mot. Il n'en ressent pas le besoin. De toute façon, il savait que ce jour finirait par arriver. Maintenant qu'il est là, il se surprend à n'éprouver aucune contrariété ni aucune déception. Au contraire, il serait presque tenté d'éclater de rire. Ces imbéciles l'ont capturé trop tard. La révolution est en marche. Ses idées se diffusent partout. Son plan est un succès total. Et le monde moderne ne peut rien contre la vague de colère qui l'engloutira bientôt.
Alors c'est ça, Yuna Bomber ? Au poste de commandement, l'agent Jim Freeman, en charge de l'interrogatoire, a du mal à y croire. Le fantastique génie. Le cerveau surdoué qui a tenu en échec les enquêteurs du FBI durant 20 ans, cet esprit brillant n'est autre qu'un ermite crasseux et débraillé, couvert de suie, le pantalon rapiécé, les cheveux en bataille et la barbe hirsute.
Face aux enquêteurs, Théodore nie en bloc toutes les accusations. Il parle peu. Simplement pour dire non, peu importe les questions qu'on lui adresse. Mais la nervosité le gagne peu à peu. Après tant d'années dans sa cabane, isolé loin du monde, La présence subite d'un si grand nombre de regards l'insupporte au plus haut point.
Jour 2 après la capture, on entame les fouilles de la cabane. Puisque l'homme est un poseur de bombes, ce sont des équipes de déminage qui sont envoyées sur place. Il faut faire preuve de prudence, mais surtout de patience. Au total, les démineurs mettront 11 jours à examiner l'intégralité d'une cabane de seulement 3 mètres sur 3. Et les trouvailles ne manquent pas. On découvre des tuyaux semblables à ceux des bombes, des lingots d'aluminium, des fils électriques, des piles et des boîtes en bois, mais aussi des schémas et des croquis de détonateurs. Dans un carton, on met la main sur un sweatshirt gris à capuche et des lunettes de soleil. Dans un autre, c'est une machine à écrire que l'on découvre, dont le lettrage est identique à celui des courriers de Una Bomber. Mais surtout, sous le lit d'appoint, les démineurs repèrent un colis piégé à l'intérieur duquel a été placée une bombe, armée et prête à exploser. novembre 1996. Le procès de Theodore Kaczynski s'ouvre à la cour de Sacramento. Dans la salle d'audience, l'inculpé fait face au dossier titanesque monté par le FBI pendant 2 décennies de traque. 10 chefs d'inculpation sont portés contre lui, en lien avec les attentats que les enquêteurs sont sûrs de pouvoir lui attribuer.
Dès l'ouverture du procès, les preuves contre Theodore sont accablantes. Par conséquent, ses avocats optent pour une stratégie de repli. Ils veulent plaider la démence. Mais en entendant cela, Kaczynski explose de rage dans la salle d'audience. Il refuse d'être traité comme un malade mental et exige de pouvoir assurer lui-même sa défense, sans avocat. Le procès prend un tour inattendu.
Le juge refuse la requête du prévenu et ordonne qu'on le soumette à un examen psychologique. L'inculpé n'a pas le choix. Au cours des jours suivants, la psychiatre Sally Johnson le soumet à une batterie de tests, à l'issue desquels elle dresse une conclusion synthétique. Monsieur Kaczynski est un homme d'une intelligence redoutable et déconcertante. Il est porteur d'une pathologie de type schizophrénique à délire paranoïaque. Pour la psychiatre, cela ne fait aucun doute. Loin d'éprouver le moindre remords, le patient est persuadé d'avoir joué un rôle crucial et bénéfique dans l'histoire de l'humanité.
Le verdict tombe le 4 mai 1998. Theodore Kaczynski est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de liberté conditionnelle. Il doit également dédommager ses victimes à hauteur de 15 millions de dollars. À l'annonce du verdict, Theodore est parcouru d'une fureur insondable. Ces imbéciles de juges osent condamner un homme qui a tant fait pour l'espèce humaine. Il est transféré à la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado, où il purgera sa peine jusqu'au jour de sa mort. Une existence faite d'isolement et de solitude, dans une cellule à peine plus grande que sa cabane du Montana.
En prison, Kaczynski rédige un livre intitulé « La révolution antitechnologique », qu'il publiera en 2016. Mais cette révolution, tant désirée par son auteur, ne se produira pas. À travers les barreaux de sa cellule, il observera pour le restant de ses jours la course effrénée du progrès technologique. Les sciences qu'il haïssait se développeront sous ses yeux. L'informatique se perfectionnera. Les désastres environnementaux se multiplieront.
Theodore Kaczynski se suicide en prison le 10 avril 2023, à l'âge de 81 ans. L'effondrement qu'il espérait tant n'aura pas eu lieu.